Ici Mireille Massé. Aujourd'hui, notre invité, Rémi Houdet.
Bienvenue à Facteurs humains, le balado. Pensé et réalisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, cette chaîne vous fait entrer dans les coulisses de la recherche et de la création pour y rencontrer des passionnés de la découverte. D'épisode en épisode, sur le mode de la vulgarisation, jetez un regard nouveau sur le monde avec nos invités, découvrez les questions qui animent leurs projets, voyez tout l'impact des lettres et des sciences humaines sur la société et le savoir. Bonne écoute!
premier offre la possibilité d'être en dialogue avec les législatives. On voit bien dans les sciences sociales, on voit dans différentes disciplines ce rapport aux communautés, aux terrains naturels. Mais on s'est dit, si on veut faire en sorte que le numérique s'intègre mieux dans les pratiques, sans venir menacer la littérature, mais venir lui donner des outils supplémentaires pour pouvoir travailler, à mieux comprendre et être en dialogue avec les gens pratiques, l'édition, la création littéraire. Et de là, cette idée d'un projet où on étudierait comment le numérique peut s'initier dans les pratiques de création, d'écriture, d'édition, ou comment le numérique peut être un adjuvant pour la diffusion, la visibilité, la découvrabilité de la littérature dans un monde où on a une espèce de surabondance et surenchère de production culturelle. Comment on peut être un peu québécois, pouvait se retrouver à être mieux visible, mieux repérable dans les différents outils, que ce soit des plateformes professionnelles, que ce soit des plateformes. Donc, ce projet-là visait à se donner les moyens sur plusieurs années. C'est un projet de 5 ans avec un premier mandat de 3 ans, de 5 ans, de se donner les moyens d'être en dialogue avec des revues culturelles, des éditeurs, avec des associations culturelles, avec des organismes culturels, et de voir tout ce qui se passe à chez vous. Qu'est-ce que nous, comme chercheurs, chercheuses, on peut apprendre de ce que vous vivez? Et comment est-ce que nos recherches pourraient être transférées, vulgarisées pour les milieux pratiques pour nous accompagner dans cette transformation numérique qui est là, qui est somme toute inévitable, parce que ça fait partie aujourd'hui de l'espace public et d'habiter ce monde.
Les partenaires, c'est donc les acteurs du monde littéraire.
Tout à fait, de façon très variable. Des universités, certaines bibliothèques, des organismes culturels, des réseaux culturels qui essaient de trouver une place. Le web prend toujours davantage d'attention auprès de la clientèle. Donc, plusieurs vous disaient, on a besoin de meilleurs sites web, on a besoin des balados pour vulgariser nos contenus. Et il y a eu des accompagnements qui ont fait de cette façon-là. Mais ce qui n'empêchait pas aussi d'avoir une dimension plus fondamentale pour la recherche. On a construit tout un répertoire des œuvres littéraires au Québec. Inventaire qui n'existe pas non plus en tant que logique. Nous les étions vus de cette façon-là. Parce qu'on avait vraiment l'idée d'une forme d'histoire, de voir d'où ça vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, ça a été un des multiples chantiers que le projet a mis. C'est tout l'enjeu de la littérature numérique. Comment est-ce qu'on la définit? Le roman que vous avez fait en PDF, que vous emportez en PDF à la bibliothèque, n'a de numérique que le véhicule, le canal de transmission. Alors que cette conception de la littérature numérique qu'on essaie de développer, c'est vraiment un rapport intrinsèquement nécessaire que le contenu et le support qui est numérique, qui va permettre dans certains cas d'intégrer des qualités. Donc, de transformer un peu la forme de l'œuvre à travers le support. Ça peut être un film, ça peut être une application, ça peut être un moteur de jeu vidéo, ça peut être une vidéo, mais des vidéos poèmes, par exemple, qui vont partir de ce film. Et qui nous amène ailleurs dans l'expérience, nous, on reste toujours dans la niche qui est celle de la littérature, c'est un rapport au langage.
Le numérique est donc venu modifier plusieurs aspects des pratiques littéraires, dont le monde de l'édition. Quelles sont les innovations dans le monde de l'édition, dans quoi sont l'objet de vos recherches?
On a souvent tendance à penser que c'est nouveau, le numérique, c'est un éditorial, parce que ce que l'on voit, la partie visible de l'iceberg, ce sont les livres de l'initiative qu'on trouve en librairie. Mais pourtant, le numérique existe dans tous les processus de la production éditoriale depuis les années 80. Toutes les ordinateurs sont arrivés. Ça a servi à faire la composition du manuscrit, personnages qui sont sur papier ont un visage unique antérieur, parce qu'on peut un PDF qui est un PDF. Donc, il faut quand même laisser aller un peu cette idée de nouveauté qui est toute récente, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le rapport immédiat entre l'idée de que produit l'édition, une publication. Une publication, c'est une mise à disposition publique. De prendre un contenu qui est dans une zone qui est privée, qui n'est pas publique, et de le mettre dans l'espace public. Et de cette façon-là, on peut voir le livre comme un outil pour y arriver. C'est un des bons outils qui existent depuis des siècles. Les revues sont aussi des supports, mais tranquillement, on s'aperçoit que cet espace public, il est inclus aussi. Parce que Facebook est une, même si c'est un espace privé, c'est quand même une manifestation de l'espace public.
Mais c'est pas si privé que ça.
Ouais, c'est ça. Mais bon, si vous essayez de défendre vos droits aux images que vous mettez là, vous allez vous battre avec toute une flopée d'avocats. Mais il faut voir l'édition d'une façon plus simple, qui nous permet de mieux comprendre comment on est dans une dynamique de transmission ou de diffusion. On a un contenu, un manuscrit, un contenu documentaire, le mettre en forme, lui trouver un support, un sujet, une description, un livre marqué, etc. Et transmettre, utiliser les canaux qui existent, que ce soit une librairie, que ce soit un portail numérique, que ce soit une bibliothèque qui, d'ailleurs, autant de contenus perçus que numériques pour rejoindre le camp des lecteurs, pour aller changer quelque chose dans l'économie du discours. Et donc, cette édition-là, c'est voir comment le numérique peut la transformer. Parce que les livres seraient des livres augmentés aujourd'hui, donc on a une partie, mais on peut avoir notre téléphone et avoir une dimension de réalité augmentée qui nous donne notre grande différence. Ça peut être des livres entièrement numériques qui sont lus sur un ordinateur ou sur Internet. Ça peut être aussi des applications, des jeux qui vont devenir en soi des contenus édités. Et donc, c'est plus l'édition, il faut le soutenir pour voir cet aspect dans la forme des œuvres. Mais aussi, il faut s'apercevoir que les éditeurs font partie de la communication dans laquelle on trouve de la société et qu'ils doivent entretenir leurs interlocuteurs, interlocutrices, les éventuels clients, ceux et celles qui vont acheter des livres. Il y a tout un volet intéressant d'étudier les stratégies de communication, les stratégies marketing des éditeurs et des éditrices, particulièrement ceux de la génération montante, qui vont investir largement les réseaux sociaux en offrant des contenus supplémentaires, des rencontres avec les autres éditrices. Montrer un peu comment le travail d'édition, ben, si vous comptez photo, Instagram, etc., ouverture de boîte, soumission de deux, trois couvertures, en disant laquelle vous intéresse le plus,
par
laquelle vous rejoignez.
Public pour
exactement. Et donc, cette dimension d'engagement de la part d'un certain public fait en sorte que le mouvement même de l'édition est moins refermé sur lui-même, beaucoup plus ouvert sur un public, même si toutes les grandes boîtes éditoriales vont avoir des produits. Des façons de se un peu, leur diffuseur, distributeur va dire non, cette couverture-là ne passera jamais en librairie. Mais là, on ouvre ça un peu plus largement et on crée une sorte de fidélisation aussi. On s'aperçoit qu'il y a des gens de plus d'un éditeur, d'un autre éditeur, et qu'on veut qu'ils puissent continuer à être fidèles à cette marque, dans les stratégies marketing, et non pas qu'ils papillonnent dans d'autres éditeurs. Le numérique vient aussi changer ces pratiques-là des maisons de
l'édition. Ça crée des ponts encore plus directs entre l'histoire, le lecteur-lectrice,
mais
qui deviennent aussi des auditeurs-lectrices.
Oui, oui, oui. Et qui sont davantage partie prenante de cette aventure éditoriale qui est très souvent invisibilisée et qui, là, tout à coup, devient concrète. Les gens disent « Ah oui, le manuscrit est passé, je sais que tel auteur que les que je suis, il y en a un qui s'en vient, on est à l'étape de faire le montage, la couverture, ça s'en vient à marquer chez moi. » Et donc,
les auteurs autistes se prêtent à ce jeu-là aussi. On en voit surtout du côté jeunesse, là, se prêtent à entrer en dialogue, sont plus en échange avec leurs auteurs de leur page Facebook ou d'autres médias sociaux.
Au lieu d'être un lien qui est sporadique, disons, du salon du livre en salon du livre, à chaque parution, là, il y a une forme de continuité, ou du moins de présence de ces figures, des auteurs et des autistes, dans l'espace public, qui vont venir discuter avec leur lectorat à partir de « Ah, voici, il y a un livre qui s'en vient, où j'étais l'idée. » Tout ça est une sorte de continuum assez intéressant à entrer.
C'est vrai que ça a énormément changé. J'aimerais que vous me parliez aussi d'un autre de vos intérêts de recherche récents, qui concerne les arts littéraires et les pratiques littéraires hors du livre.
On vient de parler des questions de support, le fait que toute publication a besoin d'un véhicule. On peut faire un parallèle intéressant avec la musique. Beaucoup de souffert, sa transposition vers le numérique. On se rappelle le partage vers les CD, déjà, on a les écrits parce qu'on perdait en qualité. Et après ça, numérisation, diffusion en ligne, tout piratage. Après ça, bon, la vente en ligne, les plateformes du Spotify qui ne ramènent pas beaucoup d'argent aux créateurs qui existent. Mais cette situation-là a ramené au devant de la scène le fait que la clientèle souvent s'intéresse principalement à ce que le créateur créatrice, l'interprète, peut offrir comme performance. Et donc, s'il y était un temps où les musiciens vivaient de leur vente d'albums avec une part de revenus qui venait de cette carte de performance, etc., on s'aperçoit aujourd'hui que c'est cette expérience qui est la plus importante, cette performance-là, et que c'est la visibilité qui a subi le musicien qui devient déterminant. Donc, un peu sa gueule, un peu sa capacité de réagir et tout ça, bien sûr, on est dans un monde d'image. La littérature, par comparaison, a aussi souffert de transformation qu'on voit dans le monde actuel, à savoir que si, dans les années 30-40, la littérature, avant encore le haut du tableau, c'était la pratique culturelle noble, les écrivains étaient des figures respectées que l'on connaissait, ça s'est évolué beaucoup. À la fin du 20e siècle, justement par une offre culturelle extrêmement foisonnante, et la littérature se trouvait un petit peu déplacée. Et les livres, bien sûr, se noient un peu dans une mer de disponibilité. On est dans un régime de littérature mondiale qui circule, donc on a la chance d'avoir des auteurs néo-zélandais, japonais, tout ça qui sont disponibles là, mais ça se rajoute. Alors qu'on a aussi le cas.
La vie, là.
Exactement. Et donc, on s'aperçoit que les auteurs, les autrices, dans certains cas, ont voulu réaffirmer leur visibilité comme figure et donc rendre un peu les œuvres qu'ils ont proposées. Et dans cette situation-là, comment on peut faire en sorte que le livre, qui finalement peut-être un peu moins appétant que un super film à grand déploiement ou un orchestre magistral dans une salle avec une sonorité superbe, comment est-ce que le livre peut devenir et rester un objet qui attire une certaine forme de clientèle? Rajoute à ça la pandémie, qui vient bousculer tout ça, où il y avait une part d'événements littéraires qui devaient se tenir, mais qui finalement ont dû être transformés. On se dit, ben, le numérique est là, on peut peut-être essayer de faire une espèce de lecture en ligne, et offrir des rencontres, diffuser autrement les idées. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et c'est quelque chose qui bouge depuis, disons principalement depuis le début des années 2000. Il y a toute une mise en visibilité des auteurs et des autrices qu'on voit de plus en plus. Il y a en fait de festivals. Pensons à Métropolis V à Montréal, pensons aux correspondances de l'Université de la France, qui étaient les événements où on voulait mettre de l'avant les auteurs, les écrits, les enfants, les enfants de lire, dans ce cas-là, ah, ben votre cœur, peut-être qu'elle fait avec la ça pourrait être intéressant de voir un peu ce que ça donne. Et peu à peu, grâce à ces événements, grâce à des financements aussi, à ce besoin de visibilité, les auteurs et autrices constatent de plus en plus que l'on peut diffuser autrement les textes. Donc, ils sont les auteurs, les autrices, pas nécessairement par des livres, mais parfois par des événements, une dimension un peu plus spectacularisée. Donc, on va créer des spectacles littéraires, on va proposer des impros littéraires, des compétitions slam, etc. Donc, toutes sortes de modalités plus de l'ordre de la mise en spectacle. D'autres vont plutôt être du côté de modalités qui sont plus de l'ordre de l'exposition. L'exposition de textes littéraires, charge, soit sauvage ou organisée dans la ville, comme on voit un peu dans Québec en Québec. On va organiser des séances de charge à gauche et à droite, ou certains autres qui vont faire du land art. Donc, se servir de la nature pour inscrire des textes dans l'espace que l'on peut partout. Ou encore, bien sûr, on parle de littérature numérique, et sur des modalités médiatiques. Donc, tout ce secteur large de littérature numérique, des balados narratifs, plusieurs personnes vont s'intéresser à cette transformation du rapport à l'écriture scénaristique qui touche un peu à la littérature, qui touche un peu à la radio, et où il y a une dimension narrative qui est très, très forte. On voit des hybridations entre des jeux et la littérature se mettre en place. Entre autres, les éditions Alto, chez Québec, ont créé il y a deux ans, une œuvre qui s'appelle Clairvoyant, qui est un oracle littéraire. Composé par 15 autrices du Québec, où on a des cartes, on tire vraiment comme un jeu de tarot, et il y a une interprétation des images, qui sont des textes littéraires, que l'on peut jouer soit avec des cartes en main, dans une version numérique en main, qui est d'ailleurs déjà en main. Donc, on voit que la littérature a toutes sortes de moyens de s'inscrire dans l'espace public. Je parlais tout à l'heure des publications. On a trop tendance à penser papier, reliure, livre, format standard. Il y a toutes sortes de modalités de publication. Les arts littéraires, donc cette expression que le milieu s'est auto-attribué il y a quelques années, permet de décrire ces manifestations de la littérature, mais hors du livre. Parce que le livre est déjà la forme hégémonique. Donc, comment ça peut exister en dehors de ça?
On peut dire, quand on parle d'art littéraire, que c'est la littérarité qui fait la littérature à ce moment-là?
Oui, on pourrait tomber dans un débat fondamental. Ben, souvent, le critère, c'est de garder une présence relativement dominante du texte littéraire. Le texte peut être lisible, donc des caractères que l'on lit, mais peut être aussi audible. Donc, il y a un travail de création qui renvoie à une forme, à une qualité d'écriture, à une qualité de style. Donc, cette idée de la littérature, il est toujours là, bien sûr, mais où ce n'est pas le papier qui est la sanction, mais qui est le texte, qui va se trouver promu par des formes, des expériences différentes, pas nécessairement uniquement le livre que l'on lit, cette sacro-sainte odeur du papier, la colle que certains recherchent dans les livres.
Et vous avez également un projet de recherche création en collaboration avec un collègue en géomatique. J'aimerais que vous me parliez de ce projet-là et surtout de la manière dont ça s'est créé l'interdisciplinarité pour arriver à un projet de recherche création.
Oui, c'est un curieux hasard. Dans les petites réunions des titres, on a toujours un point à la fin qui s'appelle les idées folles. On invite tout le monde à lancer, une journée, on parlait de faire des publicités de projets qu'on faisait sur des stations spatiales. Folle au sens littéral, puis à un certain moment, quelques-unes ont dit le caso, on l'aime bien, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, c'est un labyrinthe, il y a bien des étudiants qui ne se trouvent pas, ou qui ont de la misère à comprendre, à saisir cet espace. Je me suis dit, un jour, on peut créer une sorte d'application, de site web, qui nous donnerait un peu la cartographie du papier. Là, tu vois, oui, mais encore. Et là, tu dis, peut-être qu'on pourrait inscrire des lieux qui seraient associés à des expériences. Quelqu'un, je ne sais pas, a rencontré une personne déterminante dans sa vie au point de tel corridor et tel corridor. On pourrait géolocaliser ça, avoir une photo de l'espace et un témoignage audio qu'on entend. Ou une création littéraire qui évoquerait un peu, on a une question particulière pour le book qui était dans la vitrine des collections au premier étage, qui est malheureusement parti en voyage. Mais il y a différents espaces qui sont significatifs. Et là, c'est de voir pourquoi essayer de construire une façon de représenter cet espace mais qui donne accès à ce que l'on ressent, ce que l'on vit dans cet espace. Par exemple, la question de l'habitabilité qui est vite venue sur de l'avant. Et là, on s'est dit, bon, ben, allez, c'est pas notre langue de vie, donc à qui on parle? Tout ça, là, on a des collègues en géomatique
au
caso, de notre côté. Donc, on tend une perche, on parle à deux ou trois personnes, et finalement, Mir Mostafavi dit, hey, moi, ça m'intéresse, c'est une question de mobilité, donc comment on se déplace dans un espace public qui nous intéresse. Donc là, il y a des étudiants qui viennent de son côté, qui essaient de cartographier un peu le caso, de monter quelque chose, on va arriver un projet de création, de diffusion, de cette façon-là. Donc, un projet qui s'appelle « Se laisser hanter ». Ça risque de sortir peut-être dans le coin de l'Halloween, si on est capable, ça serait dans le thème.
Wow.
Mais c'est aussi cette idée qu'il y a une profondeur historique au lieu, que les gens qui sont passés avant nous, qui l'ont habité d'une autre façon, c'était un grand séminaire, il y avait des séminaristes qui habitaient les bureaux qu'on occupe aujourd'hui, ils vivaient tout ça. Donc, on est capable de se représenter ce qui était le pavillon auparavant. Il y avait une espèce de déambulatoire, ciel ouvert. C'est que bon, est-ce qu'on est capable de faire vivre l'historicité, la complexité de l'espace, mais aussi le vécu des gens dans cet espace? Bon. Est-ce que ce sera convaincant? On ne sait pas. Mais on s'amuse particulièrement et on se demande bien si les gens vont adhérer. Mais on avance.
Qui va composer le test?
On va faire un appel de test. Il y aura des étudiants qui gardent, mais on va peut-être aussi porter la main. Peut-être qu'il y aura des gens de. De la DPI, des services informatiques, peut-être des gens, même des archives nationales qui sont là pour aller. On enverra des flèches, on verra si ça marche, mais le but, c'est qu'il y a une communauté qui habite et qui fait vivre le pavillon. Je vois qu'on ne voit pas beaucoup parce que les gens sont un peu isolés chacun dans leur coin, mais s'il y a moyen de trouver cette espèce de plateforme partagée qui leur permettrait de s'exprimer,
dans la mine.
Oui, ça fait partie. c'est ça notre petit local de réunion avec les anciennes douches. Il y a toute cette profondeur et la transformation qu'on a en tête, qu'on espère pouvoir traduire d'une certaine façon, même si ça sera différent.
Ça rajoute beaucoup d'humains dans des lieux, dans des lieux, dans le public, pour le vraiment de se raconter.
Oui, tout à fait. Surtout que contrairement peut-être à d'autres pavillons qui sont plus ouverts et plus transparents, ben, au cas où on est toujours en train de se bouter le nez sur un mur, ou sur une porte, ou sur une cage d'escalier, tout ça, et donc d'être capable de faire ressortir que c'est dans l'espace qu'il y a entre les murs que le pavillon existe, et non pas par ses murs. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on est capable de percevoir dans ces écrans.
Je pense
qu'une bonne chose,
déjà,
Facteur humain est la chaîne officielle de balado-diffusion de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Pour plus de balados, visitez le flsh.ulaval.ca/web/diffusion.